et bienvenue pour ma nouvelle émission de Angle Mort. Et aujourd'hui, je suis sans invité, mais ne pleurez pas. Parce que figurez-vous que je serai ma propre experte sur le sujet du jour. Parce que c'est un sujet que j'ai étudié au cours de mes études universitaires et oui, je m'estime plus ou moins bien calée là-dessus. Il s'agit de la notion de consentement, un concept qui, bien qu'abordé souvent dans les débats contemporains, demeure réduit à une dichotomie simpliste de oui ou non. Pour cette émission, j'utiliserai majoritairement les théories d'une philosophe française qui s'appelle Manon Garcia. Elle a écrit 2 livres sur le sujet, notamment The Joy of Consent, la joie du consentement, qui a été écrit en langue originelle anglais et qui n'a pas encore été traduite. Mais, par contre, il existe aussi un autre livre qui s'appelle On ne naît pas soumise, on le devient, et qui, pour le coup, a été traduit en français. Manon Garcia, elle parle du consentement et elle suggère d'aller au-delà de cette dichotomie binaire que je mentionnais dans mon introduction. Le consentement, il est communément présenté comme une opposition entre l'acceptation et le refus. Mais Manon Garcia, ce qu'elle considère, et ce avec quoi je suis bien d'accord, c'est que je trouve, et elle trouve aussi, que c'est une vision réductrice qui masque la complexité des rapports sociaux et des structures de domination qui conditionnent nos choix. Les structures de domination, par exemple, on a la prison, la loi, donc avec le tribunal, le gouvernement, l'école, tout ça ce sont des structures de domination. Manon Garcia, elle souligne que dans une société imprégnée de rapports de force asymétriques entre les femmes et les hommes, notamment en raison des inégalités de genre, le consentement, il est souvent façonné par des facteurs implicites. Les facteurs implicites, c'est ceux auxquels on ne pense pas, ceux qu'on ne remarque pas. Comme la contrainte sociale, la peur du rejet ou encore l'intériorisation des normes oppressives. L'intériorisation, c'est quand on accepte une information, on l'a dans notre cerveau, mais on ne se rend pas compte parce que c'est tellement normalisé qu'on a l'impression que c'est la vie. Un individu, il peut ainsi consentir sans véritablement désirer, ce qui interroge la validité même du consentement tel qu'il est couramment conçu. En fait, elle va aux racines du concept Manon Garcia et elle se dit, est-ce que véritablement, ce qu'on désire, c'est qu'on le désire ? On nous a implicitement convaincus qu'on le désirait. Et pour cela, en fait, on peut aussi créer un lien avec, par exemple, les analyses de la société de consommation et du capitalisme. Il y a beaucoup de politologues qui suggèrent que le capitalisme, c'est une manière de nous suggérer qu'on a besoin de quelque chose pour nous faire consommer, alors qu'en réalité, on n'en a pas besoin et on ne le désire pas vraiment. Et en fait, je pense que Manon Garcia, elle essaie de faire un lien avec ça. Alors je vous invite à réfléchir à cette question, et notamment, pour aller encore plus loin, on pourrait lire Catherine MacKinnon. Moi, c'est une autrice que j'ai beaucoup aimée, j'ai trouvé qui était assez claire et surtout qui était forte et qui était crue. Et elle nous parle du consentement, mais pas seulement le consentement sexuel, c'est le consentement d'être une femme même dans une société. Donc, vous l'avez deviné, c'est une penseuse féministe et qui estime que avant même de parler de consentement sexuel, il est nécessaire de parler de domination et de submission. Et donc, elle argumente que les hommes dominent les femmes et que les femmes sont soumises et que donc elles n'ont pas vraiment de choix dans la vie. Il est fondamental de questionner les structures qui amènent une personne à consentir par conformité, par peur d'être perçue comme intransigeante ou par crainte d'une réaction hostile. Et c'est ça qu'elle explique Catherine MacKinnon. Elle explique que beaucoup de ce à quoi les femmes consentent est lié à la pression sociale et à ce qu'on attend qu'une femme soit. Notamment sur le nombre de rapports sexuels qu'on doit à un partenaire, qu'on doit à un mari, et c'est pour ça que pendant très longtemps, le viol dans le mariage n'était pas considéré comme viol parce que on estimait qu'une femme devait des rapports sexuels à un homme, et ça, ça a été déconstruit récemment que grâce à des féministes actuelles. D'ailleurs, dans un podcast que j'ai écouté récemment où Manon Garcia parle de la Suède et de leur définition du viol. Je le mentionnerai à la fin si vous avez envie de l'écouter. Mais c'est un podcast qui est très difficile, donc âme sensible, s'abstenir. Donc il y a d'une part le rapport activement non consenti, il a été dit non, et pourtant l'agresseur a continué. Et d'une autre part, le rapport non voulu, mais dû à une pression sociale, le sexe a quand même eu lieu. Le rapport, il rentre pas dans les lignes d'un rapport complètement consenti. C'est-à-dire que souvent, c'est le genre de cas qui est classé sans suite, parce qu'on estime que l'agresseur lui-même ne se rendait pas compte qu'il était en train de violer l'autre personne, parce que c'est ce qui était attendu par les normes sociales. Il y a aussi la pression du mariage, et tout ça, c'est donc quand un rapport est sous-entendu. Alors, comment est-ce qu'on pourrait redéfinir le consentement ? Manon Garcia, elle propose différentes choses. Notamment, une approche dynamique du consentement. Ça devrait être un acte qui doit être continuellement réaffirmé et respecté. Mais alors, est-ce que, selon vous, comme je vous ai parlé de Catherine McKinnon, est-ce que véritablement on consent aux choses ou est-ce que simplement on n'a pas vraiment le choix parce que c'est comme ça que la société est? C'est peut-être une vision qui est un peu pessimiste et je comprends que ça puisse être violent et que ça puisse être bizarre à entendre. Et moi j'essaie juste d'apporter un point de vue qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et qui pourrait vous faire vous questionner sur vous-même ce à quoi vous consentez et justement avoir une approche active de votre consentement. Mais pas uniquement de votre consentement sexuel, de votre consentement face à tout, face à ce que vous subissez, face à ce que vous acceptez en fait. Alors pour conclure, repenser le consentement, ça implique trois exigences fondamentales. De 1, abandonner l'illusion d'un consentement binaire pour reconnaître la multiplicité des déterminismes qui le façonnent. Alors je sais, c'est beaucoup de mots compliqués. Donc en fait, c'est abandonner cette définition du consentement oui-non, et se dire qu'il n'y a pas juste oui, non, il y a souvent plein d'autres choses qui rentrent en compte. De deux, créer un environnement où le choix peut s'exercer de manière pleinement libre, sans contrainte ni pression implicite. Et ça, si on écoute ce que dit Catherine McKinnon, ça n'est pas réellement possible, c'est un petit peu utopique. Et moi je pense que plus on tend vers ça, plus on sera proche de cette définition-là. Et enfin, investir dans l'éducation et le dialogue pour déconstruire les normes oppressives et promouvoir une éthique du consentement éclairée. Et c'est donc en ça que moi, je pense entrer en jeu. J'espère qu'avec ce podcast, vous avez pu vous poser des questions sur le consentement et sur les différentes manières de le concevoir. Et en tout cas, moi, ma conviction, c'est que la manière dont le consentement il a été défini au sein de la loi française et au sein de la loi espagnole aussi, c'est clairement pas ce qui fera avancer les cas d'agression sexuelle et les cas de jugement d'agression sexuelle. Et je pense que, outre même la justice, il est important que tout le monde se pose des questions sur ce pourquoi il, elle y elle consent. C'est que comme ça qu'on pourra vraiment consentir aux choses, c'est en se demandant où sont nos limites et en se demandant ce pourquoi on a envie de consentir. Et je pense que justement, en étant des jeunes adultes comme vous êtes, et même moi, je suis encore une jeune adulte, je pense que c'est hyper important qu'on se pose ces questions-là, parce que ça va permettre de nous forger aussi pour quand on sera plus grand. Et ce qu'on accepte de vivre ou pas, vaut mieux savoir à l'avance pour ne pas que quelque chose de mal nous arrive. Parce que mieux on sait quelles sont nos limites, mieux on peut les défendre. Si vous avez envie d'approfondir ce sujet, je vous propose donc d'écouter le podcast dont j'ai parlé, évidemment, âme sensible, s'abstenir. Et surtout, c'est très complexe, donc de toute façon, je pense qu'il faut vraiment se poser, être au calme et écouter. Ça s'appelle Philosophie du consentement, et c'est par les éclaireurs de dialogue. Moi, je l'ai écouté sur Spotify, mais je pense qu'il est disponible sur plein d'autres plateformes. D'autre part, vous pouvez lire donc The Joy of Consent de Manon Garcia. Et aussi, elle a écrit un livre qui s'appelle « On ne n'est pas soumise, on le devient ». Et celui-là, il est en français. Et puisque l'on parle de féminisme, je vous propose une petite liste de livres féministes que moi j'ai lus et qui, je pense, forgent ma vision féministe. Le premier livre que j'ai lu quand j'étais au lycée, le premier livre féministe que j'ai lu, il s'appelle « Un féminisme décolonial » de Françoise Vergès et qui parle de décentrer la vision féministe blanche et de se poser la question du fait qu'il y a plusieurs féminismes et qu'il n'y a pas qu'un féminisme. Il y a plein de femmes, notamment les femmes racisées, qui sont sous-représentées dans la cause féministe, et je trouve que c'est très intéressant, et notamment elle parle de la domination liée à la colonisation. Il n'est pas très long, et il est très abordable, très facile à lire. D'autre part, il y a un livre qui s'appelle Le regard féminin, qui a été écrit par Iris Bray, et qui parle du point de vue féminin, et de comment rendre le point de vue féminin, notamment dans le cinéma, mais aussi dans les livres, et elle propose une définition, et elle l'oppose au male gaze, qui est donc le regard masculin, et elle essaye d'expliquer comment est-ce qu'on peut décerner si un livre ou un film est influencé par le male gaze. D'autre part, il y a aussi un texte de Hélène Cixous qui s'appelle Le rire de la méduse, et c'est un texte un petit peu dans les mêmes thèmes que celui dont je viens de parler, le regard féminin. C'est une femme qui suggère que il est important que les femmes se mettent à écrire et qu'elles proposent leur propre point de vue. Et pour ça, elle appelle ça l'écriture féminine. C'est son invention, d'une certaine manière. C'est sa thèse, en fait. Et elle dit qu'il faut que, même pour l'histoire avec un grand H, que ce soit aussi écrit par des femmes, elle explique que il faut que les femmes, elles se mettent à écrire, parce que sinon on va juste continuer à être envahis de récits écrits par des hommes et qu'on ne pourra jamais vraiment rendre du point de vue des femmes. Et ça, j'ai trouvé ça hyper inspirant, et pareil, c'est très facile à lire, et c'est pas très long. Je vous suggère une BD qui s'appelle Impénétrable, et qui a été écrite par Alix Garin, qui part d'une femme qui a souffert de vaginisme, et qui raconte son récit, mais à la fois, je trouve que c'est très très beau artistiquement, et les images sont très belles, et à la fois le récit est très poétique, et je trouve on peut vraiment s'identifier au personnage, même si c'est pas ce qu'on a vécu. Voilà, c'est déjà la fin de mon podcast. J'espère que vous avez réussi à suivre. Je sais que c'était compliqué, j'ai vraiment fait de mon mieux pour que ce soit compréhensible. Et pour moi, c'était un sujet qui était très important d'aborder, notamment au sein d'un lycée. J'espère que vous vous coucherez en vous disant que vous avez appris de nouvelles choses. Et à bientôt, certainement pour ma dernière mission. Bouh !